Salut tout le monde, c'est Marie. L'épisode de Sologamy va bientôt commencer. Ce petit message, c'est juste pour vous informer que si vous souhaitez l'écouter directement en avant-première et sans publicité, je vous invite à me rejoindre sur Patreon. Patreon, c'est une plateforme réservée aux artistes et créatrices de contenu, par exemple de podcasts, comme moi. Pour un abonnement de 5€ par mois, vous soutenez mon travail et accédez à de nombreuses contreparties. Mon podcast Sologamy me demande plusieurs heures de travail par semaine. Ça fait déjà 4 ans que je travaille bénévolement pour produire tous les épisodes que vous écoutez gratuitement. Alors aujourd'hui, j'ai besoin de votre soutien financier pour continuer le podcast. Mon travail mérite une rémunération. Si vous en avez les moyens, rejoignez ma communauté Patreon à l'adresse suivante patreon.com/mariealbertfr. J'ai mis le lien dans la description du podcast. Grâce à votre abonnement, vous pourrez donc écouter les prochains épisodes de Sologamy avant tout le monde et sans publicité, et suivre les coulisses de mon travail au quotidien. Merci et à bientôt sur Patreon.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Bonjour, bienvenue dans Marie sans filtre et dans Sologamy pour un épisode qui relie mes deux podcasts. Je suis Marie Albert, j'ai 27 ans et j'habite nulle part. Je me définis comme une femme, cisgenre, pansexuelle, blanche, jeune, mince, athée, valide, célibataire et bourgeoise. Aujourd'hui, cet épisode va évoquer la santé mentale et les pensées suicidaires, donc si c'est trop difficile de l'écouter, prenez soin de vous et ne l'écoutez pas. J'ai fait donc un épisode crossover entre mes deux podcasts. Marie sans filtre, c'est mon podcast dans lequel je raconte mes histoires intimes, féministes et politiques. Et Sologamy, c'est mon podcast dédié aux célibataires qui n'ont besoin de personne. Je trouvais important de diffuser mon épisode dédié à la dépendance affective dans ces deux podcasts. Donc pour la version Marie sans filtre, ça s'appelle Survivor Tour 2. Je survis à la dépendance affective. Et pour la version Sologamy, ça s'appelle Célibat et dépendance affective. La dépendance affective, c'est quoi? C'est ce que j'ai expérimenté depuis le début du mois de juillet. Donc là, on est fin août. Je me trouve actuellement à Clohars-Carnoët, je ne sais pas comment ça se prononce, dans Finistère Sud, à la limite avec le Morbihan, l'Orient, tout ça. Je suis sur mon Survivor Tour, donc mon Tour de France à pied contre les violences sexistes et sexuelles pour la deuxième année consécutive. J'en suis à plus de 2200, presque 2300 km parcourus depuis Dunkerque. Et là, ça fait 2 mois que je marche puisque j'ai repris
Le Survivor Tour à Lannion, comme vous le savez sans doute, en juin. Et tout le mois de juin, j'étais fatiguée puisque j'ai eu la bonne idée de partir marcher en étant fatiguée. Donc je me suis sentie seule car quand je suis fatiguée, je me sens seule. Et début juillet, j'ai recommencé à coucher avec des hommes cisgenres. Donc cisgenre, ça veut dire qu'ils s'identifient au genre qui leur a été attribué à la naissance. Et j'ai recommencé à coucher avec des hommes cisgenres début juillet sur mon Survivor Tour alors que ça faisait plus d'un an que j'étais abstinente. Je suis dépendante affective. La dépendance affective, c'est un sujet hyper important. J'en ai déjà parlé dans l'épisode 5 de Marie sans filtre qui s'appelle « Pourquoi je tombe amoureuse des connards ?» C'est un très bon titre. Et la dépendance affective, c'est quoi ? C'est une drogue, c'est le fait de tomber amoureuse, comme on dit familièrement, du premier venu ou de la première venue, de s'attacher irrémédiablement à cette personne alors que je ne la connais pas, de faire des crises d'angoisse lorsque cette personne ne répond pas immédiatement à mes attentes, de m'emballer et de perdre tout contact avec la réalité, de perdre contact avec moi-même, et c'est très très dangereux. Je pense que ça parlera beaucoup de monde, car c'est un problème politique, sociétal et pas personnel. C'est une question de santé mentale, mais je crois que c'est dû au patriarcat. Voilà, je suis célibataire depuis 3 ans, plus de 3 ans. Joyeux anniversaire 2018. Et pourtant, je suis toujours dépendante affective. C'est incroyable. Voilà, donc cet épisode crossover... je l'ai déjà enregistré. Ceci est un second enregistrement, j'espère le dernier. Je l'ai enregistré il y a 2-3 semaines. J'étais amoureuse d'un mec qui s'appelle Yanis et j'étais au camping, toujours dans le Finistère Sud. Et j'avais fait toute une trame et je finissais l'épisode en disant « Oui, je suis dépendante affective de Yanis, mais bon, c'est un mec bien et ça se passe hyper bien entre nous, donc ça se trouve, je vais plus être célibataire, oh mon Dieu, et ça se trouve, finalement, ma dépendance affective va se transformer en vrai amour et finalement, bon, tout va bien. » Sauf que 2 heures après avoir enregistré cet épisode, j'ai fait une énorme crise d'angoisse car Yanis... a mis 2 heures, m'a appelé avec 2 heures de retard, il a dit qu'il m'appelait à 18h et puis il m'appelait à 20h, du coup j'ai fait une crise d'angoisse entre 18h et 20h, et quand je lui ai dit à 20h que je faisais une crise d'angoisse, ça n'avait pas l'air de l'intéresser, enfin, ça n'avait pas l'air d'être une catastrophe pour lui. Alors que moi j'étais au bout de ma vie, donc on a failli rompre, et puis finalement je suis partie en vacances avec lui, bref. Je raconterai ça tout à l'heure. De toute façon, l'histoire avec Yanis fera l'objet de 2 épisodes. Donc cet épisode, je survis à la dépendance affective de Marie sans filtre. Et l'épisode prochain, que je diffuse le même jour, qui s'appelle « Je survis au harcèlement ». Car bien sûr, mon histoire avec Yanis s'est transformée en histoire de harcèlement. Sinon, ce n'était pas drôle. C'est après tout le Survivor Tour. On est là pour survivre aux violences sexistes et sexuelles, Marie. Mais dans cet épisode, je vais raconter 2 histoires... pas que Yanis, je vais raconter aussi l'histoire de Sam. Je vous promets que ça ne va pas durer 1000 ans. Alors, il y avait tout un plan dans cet épisode que j'ai sous les yeux. Je vais essayer de le faire de façon concise. Déjà, je voulais dire que j'ai pas toujours été dépendante affective, que c'est lié à mes traumas. Le premier mec avec qui je suis sortie avec lui pendant 2 jours. J'avais 15 ans, je suis tombée folle amoureuse de lui, on était à distance, on s'écrivait des textos jour et jour. Et un jour, j'ai fini par me bouger le cul pour aller voir et on s'est embrassé. Et 2 jours après, il m'a largué en me disant qu'il avait embrassé une autre meuf. J'étais en mode, aucun rapport, pourquoi tu me largues alors qu'on s'aime d'amour ? Donc j'étais traumatisée, surtout qu'après le mec est revenu pour me récupérer 1 mois après. Et j'ai résisté, mais je suis retombée dans le panneau et il m'a relarguée comme une merde 3 semaines après. Et à partir du moment où il m'a larguée, je me suis promis de plus jamais me faire larguer, ce qui est ce que j'ai plus ou moins réussi à faire, parce que c'est moi qui ai décidé de larguer tous les mecs avec qui je suis sortie après. Mais voilà, j'étais traumatisée par le fait, en fait, que je comprenais pas que quelqu'un me dise qu'il m'aimait d'amour, on était fous l'un de l'autre, et qui me largue sans aucune raison au bout de 2 jours, puis au bout de 3 semaines. Et moi, ce qui me saoule dans l'approche psychologisante de la dépendance affective, c'est de toujours chercher des racines dans l'enfance de la personne, en mode « Marie, tu es dépendante affective parce que tes parents ne t'ont pas sécurisée émotionnellement. » Et je suis en mode « Oui, d'accord, il y a des problèmes dans mes relations avec mes parents, mais mes parents m'ont toujours aimée, j'ai jamais douté de leur amour, je sais qu'ils seront toujours là pour moi. » Et enfin, non, je trouve pas que ça explique ma dépendance affective, alors que franchement, mes relations avec les mecs et les traumas que ça a engendré peuvent beaucoup plus expliquer ma dépendance affective et surtout la culture dans son ensemble, c'est-à-dire le fait que toute la société nous enjoint à tomber amoureuse, nous les meufs cisgenres, et tomber amoureuse uniquement des hommes cisgenres, quoi. Donc ça va être les films, les livres, toutes les musiques du monde, ouais, absolument toute la culture, la pop culture, la culture même bourgeoise, absolument tout. Il faut être à fond, il faut avoir le coup de foudre, il faut tomber amoureuse. Et ce que j'explique dans l'épisode 5 de Marie sans filtre, je le rappelle, qui s'appelle « Pourquoi je tombe amoureuse des connards » que vous devez absolument écouter si ce n'est pas déjà fait, car c'est un bijou. C'est que pour moi, tomber amoureuse, c'est tomber dépendante affective. On ne peut pas, je ne peux pas, je vais parler au jeu, je ne peux pas être amoureuse, enfin, je ne peux pas aimer plutôt quelqu'un que je connais depuis 2 heures. Je ne peux pas aimer quelqu'un que je connais depuis 2 jours. Je peux lui donner de l'amour, mais je ne l'aime pas profondément pour ce qu'il est ou elle est. Donc, dire je suis tombée amoureuse, au sens des papillons dans le ventre, je pense tout le temps à cette personne, j'ai envie d'être tout le temps avec elle, c'est juste être dépendante affective. Et je pense que cela concerne beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, sauf malheureusement les personnes dont nous parlerons tout à l'heure, qui sont bloquées émotionnellement, qui ne ressentent rien. Et finalement, Yanis me disait l'autre jour, oh, c'est horrible les émotions, je souffre. Et j'étais en mode, bienvenue au club. Et des personnes comme ça arrivent à se couper de leurs émotions pendant un temps plus ou moins long, mais moi je ressens toujours un milliard d'émotions et je préfère en ressentir que ne rien ressentir du tout. Donc, mes traumas ont engendré ma dépendance affective, surtout que là je vous ai parlé du premier mec de quand j'avais 15 ans, mais depuis 3 ans que je suis célibataire, et même un peu avant, depuis on va dire 4-5 ans, depuis que j'ai 24-25 ans, en fait, je me rends compte que les mecs avec qui je relationne, bah déjà, ça marche jamais. Je suis tout le temps dépendante affective. Plus je suis dépendante affective, plus ils fuient. Plus ils fuient, plus je suis dépendante affective. Enfin, ça ne marche jamais. Et du coup, ça fait des traumas sur traumas. Ils me traitent hyper mal. Ils me font croire des trucs, puis après, ils me jettent comme une grosse merde. Du coup, ça fait des traumas en plus. Du coup, je peux pas me sortir de ma dépendance affective tant que je relationne, enfin tant que j'ai des relations de merde qui se finissent mal. Donc c'est infini, c'est un cercle vicieux. Voilà, maintenant je voulais en venir à l'aspect drogue dont j'ai déjà parlé. Pour moi, ça c'est ma drogue en fait. Je suis dépendante affective et c'est plus un truc de meuf cis, on va dire, mais je pense que les mecs aussi, les mecs cis peuvent être dépendants affectifs. Et la seule solution pour m'en sortir, c'est de l'abstinence. Donc il y avait un épisode que j'avais fait l'été dernier sur mon Survivor Tour qui s'appelle « Je survis à l'abstinence ». Et j'ai vraiment passé, tu peux l'écouter, j'ai vraiment passé un an sans relationner avec les hommes cis, c'était incroyable. Donc c'est une drogue. Ok, on fait de l'abstinence, c'est cool. Problème, début juillet, j'ai couché avec le gardien de phare. Tu connais déjà cette histoire, c'était dans l'épisode précédent qui s'appelle « Je survis au mauvais sexe », il faut absolument que tu l'écoutes. Cet épisode a eu un grand succès, j'étais hyper contente. Et j'ai encore reçu un message hier d'une meuf, enfin d'une personne qui me disait que ça l'avait beaucoup touché, l'épisode « Je survis au mauvais sexe » et qu'elle s'était reconnue et que c'était important pour elle et qu'elle me remerciait. Et donc dans l'épisode Je suis au mauvais sexe, je racontais mon histoire avec Loïc, le mec qui travaille dans un phare et qui était un mec d'extrême droite avec qui j'ai couché parce qu'il m'avait pris en stop et proposé de m'héberger sur mon Survivor Tour. Et en fait, quand je suis arrivée chez lui, je me suis rendu compte que c'était un mec d'extrême droite, mais j'avais quand même envie de baiser. Du coup, on a baisé, c'était un peu de la merde. Donc j'ai raconté ça dans Je suis au mauvais sexe. Dieu merci, bien que je ne crois pas en Dieu, je ne suis pas tombée amoureuse, ou plutôt dépendante affective, de Loïc. Problème, quelques jours plus tard, je suis allée au festival de journalisme de couture sur Garonne, peut-être vous le connaissez pas, c'est dans le Lot-et-Garonne. Donc j'ai coupé mon Survivor Tour pour aller en festival pour me reposer, n'est-ce pas? Mais bon, j'ai vu mes amis, j'ai fait la fête, c'était cool, et j'ai chopé deux mecs, dont un mec qui s'appelle Sam. Et en fait, le mec est né en 2000, donc il a 21 ans, 6 ans de moins que moi. Lol. Je me suis dit, les mecs nés en 2000 ne sont pas encore matrixés, enfin, façonnés par le patriarcat, n'est-ce pas? Et on le sait que c'était super bien. On a baisé dans la douche, c'était super bien. Quand je suis revenue du festival, on n'arrêtait pas de s'envoyer des textos pendant toute une journée, genre comme si on avait 15 ans à nouveau. Et c'était trop bien, sauf que le surlendemain, il ne m'envoyait plus de textos. Du coup, j'ai fait une crise d'angoisse. J'ai pleuré. En plus, j'étais en descente du festival. Et j'étais chez Mélanie à Brest, une meuf que je connaissais pas. Donc, c'était absolument génial de pleurer devant quelqu'un qui ne vous connaît pas. Et du coup, j'ai dit à Sam que j'étais dépendante affective et que je pleurais et que ça n'allait pas parce que maintenant je communique, n'est-ce pas, sur ma dépendance affective avec les mecs avec lesquels je relationne. Et Sam ne voulait pas se prendre en charge sa dépendance affective, ça ne l'intéressait pas. Donc il m'a dit « Bonne chance, j'espère que tu trouveras quelqu'un qui saura satisfaire tes besoins, blablabla. » Donc il m'a lâché comme une grosse merde. Mais en même temps, je me sentais soulagée parce qu'il ne m'intéressait pas du tout. Je voulais juste de l'amour et à partir du moment où il m'en donnait plus, autant couper contact. Sauf qu'il a continué à m'envoyer vite fait des messages. Et il voulait venir marcher avec moi et je lui ai dit « Mec, vaut mieux pas m'envoyer de message tout court. » Parce que du coup, moi, je me re-emballe à chaque fois. Du coup, on a coupé contact et ça, c'était le vendredi juillet, fin juillet, mi-juillet, où j'ai décidé de partir en digital détox. Qu'est-ce que c'est qu'une digital détox? J'ai décidé de partir, enfin de continuer mon Survivor Tour sans les réseaux sociaux pendant 2 semaines, de couper Instagram, etc., pour me concentrer sur moi et me sentir moins seule. C'était la digital détox la plus échec de ma vie. Genre, en fait, j'ai passé 2 semaines à penser à un autre mec. Puisque ça, c'était le vendredi. Et à partir du lundi, j'ai rencontré Yanis. Et en plus, j'étais sur la presqu'île de Crozon en Bretagne. Donc, il y avait plein de monde. Donc, ça servait à rien d'être en digital détox pour me recentrer sur moi. Parce qu'en fait, j'étais tout le temps avec des gens. C'était trop cool, d'ailleurs. Ce que je voulais dire par rapport à Sam, c'est que c'est que cette drogue, quand la personne m'en prive pendant ne serait-ce que 2 heures, je fais une descente, je suis en manque, j'ai envie de pleurer, j'ai des pensées suicidaires, et c'est très dur. La troisième chose que je voulais faire, que je voulais dire, c'est que du coup, dans cette situation, je veux me sevrer. C'est pour ça que je lui dis de ne plus m'écrire. Et je repasse à l'abstinence. Le problème de l'abstinence, c'est que ça ne dure pas 1000 ans. Genre, j'ai tenu 1 an, mais c'est mon maximum. Donc je me disais, peut-être que je pourrais avoir une sexualité en conscience, je ne sais pas ce que ça veut dire. Essayer de gagner des victoires sur la dépendance affective, essayer de la soigner, c'est ce que tout le monde me dit de faire. Donc ça peut passer par ne plus considérer les hommes comme des proies, ne plus chercher le sexe à tout prix, les relations à tout prix, essayer d'apprendre à connaître la personne et de chercher le vrai amour et pas juste l'attention qu'elle peut me donner. En gros, arrêter de considérer les mecs, 6 en l'occurrence, bien que je ne sois pas hétéro, comme des fournisseurs de drogue. Les considérer comme des êtres humains, apprendre à les connaître et éventuellement, une fois sur 1000, me dire que cette personne m'intéresse et peut-être, avec le hasard et le temps, l'aimer. Mais ça voudrait dire ne plus faire de sexe. Oh my god! Et surtout, l'année dernière, je disais que je voulais des relations simples et sereines avec les mecs 6. Mais en fait, c'est impossible! C'est impossible d'avoir des relations simples et sereines avec ces personnes, puisqu'on vit dans un hétéro-cis patriarcat, capitaliste et raciste. Donc c'est impossible. Moi, ce que je cherche, c'est la sérénité dans ma vie. Je ne veux pas être heureuse, je veux juste être sereine. Et en fait, relationner avec les mecs 6, quel que soit le modèle, ce n'est jamais serein. Donc je répète, ça fait 1 mois et demi que je pense jour et nuit à des mecs 6 et que je ne suis plus moi-même et que je n'ai plus de cerveau. Ça a été Loïc, après ça a été Sam et après ça a été Yanis. Oui, je vais raconter l'histoire avec Yanis 2 secondes. Mais je finis le déroulé initial de mon épisode qui était de dire « Je note mes victoires, je vais gagner, remporter des victoires sur la dépendance affective. » Donc déjà, un, il ne faut pas harceler la personne. Je me rappelle en 2018, j'avais fait l'épisode... C'était l'épisode 5, « Pourquoi je tombe amoureuse des connards ?» Je raconte ça dedans. Le mec me met un lapin, il s'appelait Geoffrey. Il me met un lapin et moi je pète un câble et je décide d'aller le voir à son travail pour avoir une explication contre son gré. Donc ça non, 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 heureusement je ne suis pas allée, mais non, on ne harcèle pas les gens. Et genre, j'insiste lourdement là-dessus vu que dans l'épisode suivant, je survis moi au harcèlement. Donc ça, ne pas harceler, j'y arrive. Deux, ne pas coucher le premier soir, j'ai réussi une fois dans ma vie. Et c'est vrai que c'est radical. J'avais un date avec un mec que j'avais rencontré sur l'application de rencontre OkCupid. Et genre le premier soir, on n'a pas baisé, on s'est juste embrassé. Il s'appelait Dan. Et en fait, on a couché ensemble le deuxième soir. Et je n'ai jamais été vraiment, vraiment dépendante affective de lui. Mais on ne saura jamais... Si c'est vraiment ça qui a changé quelque chose, je pense que ça n'a aucun rapport, le fait de coucher le premier soir ou pas. Mais bon, on va dire que c'est une victoire. J'ai réussi une fois dans ma vie à ne pas coucher le premier soir, mais c'est hyper relou. Moi, je recommande pas particulièrement, mais... Enfin, je veux dire, c'est parce que je suis un chien que je dis que c'est relou. Sinon, ça peut être cool. Alors, 3, ne pas me laisser breadcrumber égale moto larguée. Donc, breadcrumber, c'est hideux, ça veut dire miette de pain. C'est comme ce que me faisait Sam, c'est-à-dire qu'il m'a dit qu'il voulait pas gérer ma dépendance affective, mais après il continuait à m'envoyer vite fait des messages tous les 3 jours. Non, en fait non, moi je ne veux pas des miettes, je veux le gâteau tout entier. Ça j'y arrive bien, franchement je suis une as des ruptures. On fera un épisode dans les podcasts Sologamy sur les ruptures parce que ça me passionne. Je sais très bien rompre, si vous avez un problème pour rompre, appelez-moi. Quatrième piste, pécho des personnes qui ne sont pas des mecs cis et ne plus viser des personnes indisponibles émotionnellement. Et puis aussi trouver d'autres sources d'amour. Hein. Il n'y a pas que l'amour conjugal, sexuel, amoureux. Il y a l'amour de la famille, des amis, etc. Donc ça, je ne sais pas. Oui, je pense que j'arrive à viser des personnes qui sont pas indisponibles émotionnellement, mais c'est un peu dur parce que la plupart des mecs cis de mon âge célibataire le sont. Je n'arrive pas à pécho des personnes qui ne sont pas des mecs cis. J'arrivais quand j'étais jeune, maintenant je n'y arrive plus. Donc il faut que je sorte de l'hétérosexualité à tout prix. Et pour les autres sources d'amour, oui, j'y arrive. J'ai plein d'amis, j'ai des amis et j'ai ma famille d'amour. Cinquième piste, accepter mes émotions fortes, faire de la méditation. Oui, bah ça je le fais. Hein. Je ne suis pas sûre que ça résolve la dépendance affective, mais ça m'aide à survivre. Et sixième piste, responsabiliser mon ou papa ou ma partenaire. Responsabiliser mon ou ma partenaire. Poser mes limites, car je peux être dépendante affective de quelqu'un qui n'est pas un mec cis en fait. Ça ne dépend pas que du genre de la personne. Alors, poser mes limites. Lol. On va voir avec l'exemple de Yanis que c'est ce que j'ai essayé de faire. Que, en fait, ça ne marche pas toujours. C'est pas... Et donc, je finissais cet épisode que j'avais enregistré, dont j'avais enregistré une première version il y a 2-3 semaines en disant que c'était un privilège de n'avoir que ma dépendance affective comme problème. Effectivement, pendant mon survivor tour, à ce moment-là, mon problème, c'était la dépendance affective. Je pense que la plupart des gens ont des problèmes autres dans leur vie. Par exemple, des problèmes matériels ou de santé. Mais bon, c'est pas pour minimiser la dépendance affective, car ce que je vais raconter avec Yanis te prouvera, si tu ne le sais pas déjà, mais j'en doute, que ça peut mener à des états très graves au niveau santé mentale. Voilà, on arrive à la partie de l'épisode où on va enfin raconter l'histoire avec Yanis, où tout le monde veut savoir ce qui s'est passé. Ah oui, j'avais oublié de dire aussi que moi, je tombe amoureuse de A, B ou C. Je racontais ça dans l'épisode 5, pourquoi je tombe amoureuse des connards. C'est qu'en fait, moi, dans ce schéma de dépendance affective, je tombe amoureuse de quelqu'un, mais je m'intéresse pas du tout à la personne. Je veux juste qu'elle me donne cette drogue d'amour, de tendresse et d'attention. Et donc, j'appelais ces personnes, ces mecs, A, B, C, D, E, F. Et donc, à ce moment-là, je suis tombée sur Sam. À ce moment-là, je suis tombée sur Yanis. Sam ne m'intéressait ni physiquement, ni mentalement. Yanis m'intéressait peut-être à la limite physiquement, mais pas du tout, du tout, du tout mentalement. Et pourtant, j'ai passé 3 semaines à relationner avec cet homme. Oh my god! Donc, on en était au vendredi où j'ai dit à Sam d'arrêter de m'écrire, où je me suis auto-larguée, où j'ai posé mes limites. Où j'ai commencé ma digital detox. J'arrive sur la presqu'île de Crozon. Le lundi 19 juillet, donc 3 jours après, je marche enfin, je suis à Camaret-sur-Mer. Je vais marcher encore quelques heures pour aller me poser près de la plage de Vérac. Je crois que ça s'appelle comme ça. Donc, je vais en direction de la pointe de Pénir. Si vous avez déjà marché sur la presqu'île de Crozon qui se situe au bout du Finistère, en dessous de Brest, vous savez ce que c'est que la pointe de Pénir. Sinon, pas grave, je dis quand même la pointe de Pénir. Et là, il y a un mémorial, je ne sais pas, un mémorial de quoi, des hommes qui sont morts dans je ne sais quelle guerre, en mer, bref. J'arrive au mémorial et je vois un mec beau gosse avec un sac à dos assis sur le même, enfin, sur la, à côté du mémorial. En bas du mémorial, et il me regarde pas du tout. Il parle à quelqu'un et je me dis, ce mec est beau gosse, j'ai envie qu'il me regarde, car j'ai envie d'être validée par les hommes et j'ai envie d'être aimée. N'oublions jamais ça. Donc, je fais mon intéressante, je me prends en photo. D'ailleurs, ces photos sont horribles parce que je fais des selfies, mais je sais qu'à un moment, il a commencé à me regarder. Donc, je faisais une tête bizarre sur les selfies, comme si j'étais constipée. Et donc, j'ai réussi à capter son attention et à partir de ce moment-là, son attention n'a plus faibli. Et à un moment donné, je me dis, qu'est-ce que je fais, Marie? Alors là, j'ai deux options. Je peux soit continuer à marcher, aller à ma plage, me baigner, parce que j'avais super chaud, il faisait 30 degrés, et planter ma tente à côté, etc. Faire ma vie. Soit je peux aller voir ce mec et le début des problèmes. Tu vois? J'étais très, 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 très lucide. Mais à cette époque-là, j'en étais à Loïc, Sam, mais j'en avais pas assez, tu vois, de souffrance. Donc je suis allée voir Yanis. Enfin, je ne savais pas qu'il s'appelait Yanis, je me suis assise à côté de lui. Putain, mais cette histoire va durer 1000 ans, faut pas que ça dure 1000 ans. Bref, on a commencé à parler, le mec était insupportable, il ne parlait que de lui, il ne s'intéressait pas à moi, il me mansplainait, il jetait son mégot par terre. Voilà. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Bien sûr, ce que j'ai fait, c'est que je suis restée avec lui et qu'après on est allé marcher. Et en fait, c'était un randonneur comme moi et j'aime bien parler aux randonneurs parce que je suis sociable. Il allait en sens inverse, mais bizarrement, ce jour-là, il n'avait pas bien vu l'endroit d'où, en direction duquel j'allais. Donc, il m'a dit, tiens, je vais faire quelques centaines de mètres avec toi. Et donc, on a marché quelques centaines de mètres, il m'a prise en photo. Et on est arrivé à cette fameuse plage avec un bar en face qui s'appelle Chez Germaine. C'est une institution. Et il faisait 30 degrés, la plage était magnifique. Et je lui dis, mec, j'ai trop envie de me baigner, j'ai trop envie de me bourrer la gueule. Et là, on voit le bar et il me dit, mais meuf, on peut se bourrer la gueule. J'étais en mode, oh, d'accord, commençons par la baignade et ensuite, nous nous bourrons la gueule.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Je crois que c'était un des moments les plus romantiques de ma life, c'est-à-dire qu'on s'est mis en maillot de bain, tous les deux torse nu, et on s'est baigné, et l'eau était très froide, mais c'était très chaud, il y avait des bateaux qui étaient... C'était marée basse, donc il y avait des bateaux juste à côté, c'était super beau. On était dans un des endroits les plus beaux de France, et on se regardait, et je me disais, ce mec est quand même super beau et super bien foutu. Et je sais pas, tu vois, j'ai eu envie de lui faire un câlin parce que c'était ce moment-là. Et je lui ai fait un câlin et après, j'ai grimpé sur lui. Il y avait du courant, c'était marrant. Et on s'est embrassés. Et après, on est allé sur la plage. Et après, on est allé devant le bar. Et après, on a bu des bières. On a pique-niqué. Et on continue à se faire des bisous. Et après, on a planté sa tente sur la falaise. Et genre, à minuit. Et... c'était incroyable de baiser sur la falaise et le lendemain de se réveiller et d'avoir la vue sur la mer. Enfin, c'était magnifique. Donc j'ai dormi genre 2 heures, j'étais éclatée. Et le soir même, il m'a fait un cuni qui était pas ouf. Mais ma foi, c'est moi qui ai joui et pas lui. On n'a pas fait de pénétration. Le matin, je l'ai sucé 2 fois. Il a joui 2 fois et moi 0. Et en fait, ce qui était incroyable, c'est qu'il était super doux. Même le matin en général, les mecs le matin, tu sais, ils ont tiré leur coup la veille... bye bye. Et lui, il était super attentionné, super doux, et on se disait je t'aime, et on se donnait de l'amour mutuellement. Et du coup, je me suis dit trop cool, j'ai trouvé un mec qui veut bien me donner de l'amour, un bon fournisseur de drogue, tu vois. Et en partant, bah en fait, on devait se quitter, on a pique-niqué ensemble, on a petit déjeuné, et puis le mec était toujours trop mignon, en mode j'ai pas envie de partir, j'ai pas envie de te quitter. Puis il a fini par prendre mon numéro, et puis on s'est quitté, on a pris notre direction opposée, et puis en fait, on a commencé à parler par texto. Bon, le mec n'a jamais de batterie, donc répondait toujours 1000 ans après mes textos, mais voilà. Et un jour, quelques jours après, j'étais... En fait, le mec avait un rhume, donc il m'a filé son rhume, donc après, j'ai pas réussi à dormir toute une nuit à cause du rhume. Et c'était au moment où je devais marcher le lendemain pour aller au Cap de la Chèvre, qui est un endroit, si vous connaissez pas... qui est hyper dénivelé, qui est hyper dur, sur le sentier de randonnée. Et il faisait toujours 30 degrés, j'avais pas dormi, j'étais éclatée, il n'y avait pas d'eau, et j'arrive au Cap de la Chèvre, et je dis, en fait, là, je vais crever. Donc, je me suis arrêtée là, j'ai trouvé un endroit pour bivouaquer. Et là, je lui ai dit, appelle-moi. Genre, appelle-moi, je suis au bout de ma life. Et appelle-moi avant 22h, parce qu'après, je vais couper mon tel. Le mec ne m'appelle pas et le lendemain je me réveille et je vois qu'il m'a appelé à 22h15. C'est un détail très important pour comprendre ce qui se passe après. Et finalement le lendemain je le rappelle et puis à partir de ce moment-là on s'est appelé matin et soir tous les jours pendant 2 semaines et le mec marchait à un autre endroit en Bretagne. Enfin c'était ouf parce que tous les deux on marchait à 2 endroits différents, on était tous les deux seuls. Du coup on avait un peu que ça à foutre de s'appeler matin et soir. Le problème c'est que je suis évidemment tombée dépendante affective de lui, surtout qu'il était trop mignon. Et il ne m'appelait jamais à la bonne heure. En fait, c'était impossible d'avoir une relation organisée. En fait, moi, je suis maniaque du contrôle, donc j'ai besoin de savoir à quelle heure m'appelle la personne. Sinon, je fais des crises d'angoisse qui peuvent me mener à des pensées suicidaires. Et donc, la première fois que j'ai fait ça, il devait m'appeler à 22h. Et puis, en fait, il était au resto. Et du coup, au bout d'un moment, je me suis dit, j'ai qu'à l'appeler, moi. Et donc ça marchait plutôt bien, et puis je lui ai expliqué que moi j'étais dépendante affective, que je faisais des crises d'angoisse, donc on a décidé de plus se fixer d'heure. Sauf que le mec il a sa fierté, donc pendant un temps on se fixait plus d'heure, on se disait juste on s'appelle entre telle heure, un peu l'un ou l'autre, et puis voilà ça marchait, sauf qu'au bout d'un moment il avait sa fierté, il était en mode non mais là ce soir je te promets je vais t'appeler à 18h, et ça c'était le fameux soir du jour où j'ai enregistré cet épisode, première version. Et donc il dit qu'il m'appelle à 18h avec sa fierté, puis à 18h15, 18h20 il m'a toujours pas appelé, donc moi je l'appelle et là je tombe sur son répondeur. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, il avait déjà fini sa randonnée, donc il était parti à Saint-Calguildo, qui est une ville dans les Côtes d'Armor, dans le nord de la Bretagne, pour passer 2 semaines de vacances avec ses potes, dans des maisons de location. Et en fait, moi, le fait que je savais qu'il était avec ses potes, ça me rendait encore plus folle parce que je me disais, ok, le mec, quand il randonnait, il avait ça à foutre, en fait, de m'appeler. Mais maintenant qu'il est avec ses potes, il a plus le time. Et là, il a pas de batterie, en plus, alors qu'il a zéro excuse de pas avoir de batterie parce qu'il est dans une maison. Enfin, voilà, moi, je suis sur le sentier de randonnée tous les jours. J'ai pas d'électricité. Tu vois, j'ai tout le temps de la batterie. Et lui, il est dans une putain de maison avec ses potes et il n'a pas de batterie. Et il m'appelle pas. Et donc, je me dis, bon, il doit avoir une bonne excuse. Et en fait, j'ai fait une crise d'angoisse métaphysique où... Je sais pas si j'ai pleuré, mais ouais, j'étais... J'avais vraiment des pensées suicidaires. Je me disais, mais genre, je vais crever. Genre, là, il m'a pas appelé, il se fout de ma gueule. J'ai envie de crever. Ça se trouve, il a eu un problème. Enfin, pendant 2 heures, je suis partie dans des délires. Et je vais chercher mon couscous parce que j'étais dans un camping au milieu de nulle part. Il y avait juste un mec sur la plage qui vendait du couscous. Et je vais chercher mon couscous que j'avais commandé. Et je me rappelle, je mangeais mon couscous. Mais déjà, il y en avait pour 6 personnes et j'étais toute seule. Et je chialais toutes mes larmes dans mon couscous. J'arrivais pas à manger, tu vois, j'avais pas faim. Parce qu'il y a aussi ça avec la dépendance affective, c'est que pendant un mois et demi, j'ai pas ressenti la faim. Alors que normalement, quand je marche, j'ai tellement faim. Genre, c'est un truc de ouf. C'est incroyable. Je bouffais plus trop. Je rigole. Je bouffais moins. J'avais pas faim. Et à 20h, à 20h15, je sais pas, à 20h15, le mec m'appelle. Et genre, en fait, il n'avait aucune excuse. Il était juste en mode, bah j'avais pas de batterie, on allait faire les courses. Bah là, j'ai le temps de te parler 5 minutes parce que je dois transporter des casseroles d'un point A à un point B. Et moi, j'étais en mode, mais mec, on a dit que tu devais plus me faire ce genre de faux plan. Moi, je viens de faire une crise d'angoisse monumentale. Tu n'as même pas d'excuses. Et tu veux que je vienne à 5A parce qu'en plus, il m'avait invité en vacances là où il était avec ses potes. Je devais y aller quelques jours après. Et je lui dis, mais mec, ce n'est pas possible, en fait. Tu ne respectes pas ce que je te demande. Tu ne fais pas attention à moi. En fait, t'en as rien à foutre de mon état mental. Là, c'est hyper grave ce qui se passe. Et le mec est en mode, ouais, t'as raison. Mais en même temps, j'ai envie que tu viennes à 5A. Je suis vraiment désolée. Mais en fait, avec Yanis, il n'y a que des paroles. Il n'y a jamais d'actes. Jamais. Et donc, au bout d'un moment, il devait partir pour cuisiner ses moules. Et j'ai appelé ma sœur et ma meilleure amie, Tara. Et je me rappelle que je chialais encore ma mère au téléphone. Et que je disais, mais j'ai envie de mourir. Mais c'est horrible. Mais tu te rends compte ce qu'il m'a fait. Et personne ne comprenait, tu vois. Personne ne comprend. Les gens sont en mode, mais meuf, on s'en fout qu'ils t'appellent 2 heures après. Enfin, il faut que tu t'adaptes aux hommes. Ils sont comme ça. Et si tu aimes vraiment Yanis, il faut que tu prennes sur toi. Enfin, les gens ne disaient pas vraiment ça, mais c'était un peu le sous-texte. Et moi, j'étais en mode, non, mais je vais le larguer, je vais pas aller à 5A, c'est une mauvaise idée, ça peut pas le faire. Et les gens me disaient, mais meuf, là, t'es en train d'auto-saboter ta relation. On dirait que tu veux vraiment pas relationner avec les hommes. J'étais en mode, non, je ne veux pas relationner avec les hommes, regardez ce qui se passe. Bref, c'était atroce. Le lendemain, on s'appelle avec Yanis et on devait avoir convenu pendant la nuit de si on restait ensemble ou pas. Ce qui ne voulait rien dire. Non, si je venais à 5A ou pas. Et puis le matin, tu vois, je l'appelle. Le mec me dit, attends, je viens de me réveiller, je te rappelle dans 2 minutes. Bon, allez, dans 10 minutes max. Et il ne me rappelle pas. Et là, je me dis, pendant 30 minutes, il ne me rappelle pas. Tu vois, il avait dit 10 minutes. Pendant 30 minutes, il ne me rappelle pas. Il me faisait ça tout le temps, hein. Et je me dis, mais le mec se fout de ma gueule. Et quand il m'appelle, c'est sûr, je lui dis que je viens pas à 5A. Le mec m'appelle 30 minutes après. Et en fait, j'étais tellement sous emprise, dépendante, qu'au tel, j'étais en mode, ah, salut. Et il prend sa voix là, doucereuse. Ça va, m'amour? T'as bien dormi? Et moi, j'étais en mode, mais... Non, je ne veux pas aller à 5A, c'est une mauvaise idée. Et voilà, enfin, ça n'a pas du tout marché, j'étais à ses pieds et finalement je dis ok, je viens à 5A. Et après, y a Pauline, une meuf que je connais pas, qui me suit sur Instagram, qui est venue marcher avec moi pendant 2 jours. Et pendant 2 jours, je lui ne parlais que de Yanis. La meuf, elle vient marcher avec Marie-Albert, la féministe, sur son Survivor Tour et je lui parle pendant 2 jours que de Yanis. T'imagines l'enfer. Après, elle était aussi dépendante affective, donc on a pu partager nos points de vue et elle était contente d'être là apparemment. Et puis elle est coach, du coup elle aime bien écouter les gens, mais enfin, c'était horrible. Et puis j'étais persuadée le dernier jour que le mec allait me faire un faux plan. C'est-à-dire que moi j'allais prendre le train pour 5A et qu'il allait jamais me donner l'adresse de là où il était et que j'allais jamais retrouver. Enfin, en gros, il voulait pas que je vienne à 5A, que c'était juste un faux plan. Et puis à la fin, le mec me donne l'adresse et je me dis, quand même, j'ai un peu peur qu'il s'occupe que de ses potes. Parce que ça m'est déjà arrivé d'être avec des mecs et quand ils sont avec leurs potes, je suis un pot de fleurs, genre je disparais de son existence. Et Yanis me dit, mais non, je vais pas faire ça, mais en même temps c'est vrai, il faut que je voie mes potes. Et Yanis, en fait, a le FOMO, Fear of Missing Out. Donc le FOMO, il a peur de tout rater, il a peur de rater quelque chose. Donc il veut toujours être partout, il veut toujours tout faire, il veut toujours voir tout le monde. Donc il me dit, oui, il faut que je voie mes potes, tu comprends mes potes, il faut que je voie mes potes. Et j'étais en mode, mais en fait, je vais venir et le mec va passer tout son temps avec ses potes. Et toutes mes amies me disaient, mais non, va à 5A, tu vas bien voir, mais non, il ne fera pas ça. Et je me disais, oui, c'est vrai qu'il est super attentionné, il va me faire plein de bisous, ne nous inquiétons pas. Et puis en soi, moi, je vais à 5A, je vais pouvoir faire la fête, dormir, me faire des potes. Enfin, j'y vais pas que pour être avec Yanis 24 heures sur 24, quoi. Donc, je vais à 5A, c'est bientôt fini, hein, je te promets. Je vais à 5A et en plus, j'en étais à ce point de dépendance affective que je commençais à écouter le podcast Change ma vie de Clotilde Dussolier sur le développement personnel. Et genre, le développement personnel, c'est quand même le truc que je déteste le plus au monde. Car c'est génial le développement personnel, mais tu vois, c'est quand même un... Là, je l'ai vraiment utilisé en mode, ok, je suis dans une relation de merde, toxique, dépendance affective, mais en fait, j'ai moi qui suis responsable de mes émotions. Il faut que j'accepte que lui, il est comme ça et qu'il changera pas pour moi. Il faut que je prenne en charge mes propres émotions. Il faut que j'arrête d'exiger des trucs... Enfin, en gros, il faut que je prenne le bon et pas le mauvais. Enfin, tu sais, tout le développement personnel. Et du coup, j'étais dans le train pour aller à 5A et je me disais... Et j'écoutais des épisodes de Change ma vie, de développement personnel. Je me disais, ah ouais, c'est trop vrai, oui, mais mon Dieu, mais vraiment, oui, c'est pas parce qu'il répond pas à mon texto dans les 3 heures qu'il m'aime pas. Mais mes émotions, j'en suis complètement responsable. Il faut que je prenne en charge mes propres émotions. Ah tiens, il y a cette technique pour gérer mes crises d'angoisse. Et tu vois, et en fait... Moi, ce que je reproche vraiment au développement personnel, c'est qu'en fait, ça oublie toute la dimension politique et systémique, en l'occurrence du patriarcat. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, on peut accepter que les hommes répondent pas à nos demandes, répondent pas à nos SMS, soient pas disponibles et pas de batterie sur leur téléphone. Mais en fait, pourquoi c'est à moi de m'adapter à lui ? Lui, jamais, il va écouter des épisodes de développement personnel, jamais il va faire des crises d'angoisse, jamais il va se demander... qu'est-ce que je pourrais changer pour lui. Enfin, lui, il est juste trop content. Sa vie, elle est trop bien. Il a une meuf, il a des potes, tout est trop bien. Et du coup, bah, c'est moi qui dois m'adapter à une relation qui me convient pas. Parce qu'en fait, moi, ça me convient pas d'avoir quelqu'un qui m'appelle pas aux bonnes heures. C'est juste, moi, c'est pas possible pour moi. Et j'ai pas envie de changer, en fait. Moi, j'ai des amis, quand je leur dis on s'appelle à 20h, on s'appelle à 20h. Et s'il y a un problème, elles me le disent. Tu vas me dire, ah, finalement, je suis pas libre à 20h. Mais pourquoi je devrais m'adapter pour un mec 6 en plus? J'ai une amie comme ça, elle est pas fiable sur les horaires, mais c'est une amie. Je relationne pas avec elle tous les jours. Mais avec quelqu'un avec qui je relationne tous les jours, c'était couru d'avance que ça pouvait pas marcher si le mec n'a jamais de batterie, ne répond jamais au tel, ne répond jamais à mes SMS et m'appelle 2 heures en retard, tu vois. Enfin, c'est pas possible. Donc j'arrive à 5A. Et là, le mec me rejoint quand même. Pas venu me chercher à la gare, hein, mais il me rejoint quand même sur la plage. Et je vois, et en fait, encore une fois, un truc de mec 6, il ne m'avait pas envoyé de photo pendant toutes ces 3 semaines, donc je ne me rappelle plus de à quoi il ressemblait, tu vois. 2 semaines peut-être. Je ne savais plus à quoi il ressemblait. Et je le vois au loin, je me dis, oh mon Dieu, non, le mec ne sait pas s'habiller, le mec s'habille hyper mal. Et pour moi, j'en ai marre, puisque je sors qu'avec des mecs qui s'habillent mal, et c'est hyper méchant, parce qu'on s'en fout comment les gens s'habillent, n'est-ce pas? Et donc je vois sa tête, et je fais, ah putain, il a cette gueule là. Et donc j'étais trop choquée de le voir, et je me disais, ah non, ce n'est pas possible, ça ne va pas le faire. Et puis le mec me roule d'énormes paloches, forcément. Moi j'avais envoyé plein de photos, je n'avais pas changé d'habit. Et donc il était à fond. Et on arrive dans sa maison de location. Et à partir de là, je suis devenue un meuble. Et pendant 5 jours, 6 jours, je suis restée. Le mec s'occupait pas de moi. Tu vas me dire, on n'est pas là pour que les hommes s'occupent de nous. Mais en l'occurrence, j'étais avec ses potes. J'étais toute seule. J'étais venue pour lui. J'étais venue d'hyper loin. J'étais crevée. J'étais vulnérable. J'étais dépendante affective. Et le mec n'en avait rien à foutre de ma gueule. C'est-à-dire qu'en fait, on était ensemble la nuit quand on baisait, mais vu qu'il a le FOMO, il restait en soirée jusqu'à ce que la dernière personne qui était là en soirée se couche. Donc il se ramenait dans le lit à 5h du mat. Moi, je lui ai fait 2 premières soirées, après j'ai dormi, tu vois. Je pouvais pas me coucher à 5h du mat tous les jours, c'est pas possible. Et voilà, voilà, on était ensemble dans le lit de 5h à 10h du mat ou à midi. Le mec avait 1000 trucs à faire. Une nuit, il a même pas dormi. On baisait, voilà. Et le mec dormait 4 heures par nuit max. J'étais en mode, mais ça ne va pas, ça ne va pas aller. Et la journée, il faisait ses bails, moi je dormais. Et puis quand je voulais faire des trucs avec lui, bah en fait, lui, il pouvait pas. Genre, il voulait... Un jour, il allait à la pêche avec son pote. Je n'avais même pas le droit de venir. Et puis, en fait, j'ai cessé d'exister. C'est-à-dire, c'est moi qui passais mon temps à l'appeler pour savoir, et c'est quand que t'as fini ton activité? Yanis, tu viens quand me voir? Et Yanis, ceci, cela. Et tous ses potes, pareil, parce qu'en fait, il fait ça avec tout le monde. Il met des faux plans à tout le monde. Il s'occupe de personne. Il veut être à tout le monde et personne à la fois. Du coup, il passe des temps. Il déçoit tout le monde. Et du coup, tout le monde est à ses pieds. C'est vraiment, fuis-moi, je te suis, l'exemple parfait. Et donc tout le monde me demandait en permanence il est où Yanis, comme si j'étais sa secrétaire. Et en même temps, moi non plus, j'étais pas avec lui, tu vois. Et donc c'était horrible, je me sentais comme une merde. Je me sentais la pire merde au monde, j'avais l'impression de ne servir à rien. Je m'intéressais même pas à ses potes, parce que comme j'étais en stress par rapport à lui, je pensais qu'à lui. Je parlais que de lui, ses potes pareil. Donc en fait, moi j'étais avec ses potes, et de temps en temps, j'étais avec Yanis. Et en gros, quand on n'était pas ensemble, ça allait encore, parce que je pouvais faire mes trucs, genre mes machines à laver, la vaisselle, les courses, des trucs de meuf, tu vois. Mais quand on était en soirée ensemble, il était insupportable. Genre déjà, il expliquait la vie à tout le monde, il est super arrogant, il a des avis sur tout. Voilà, il est contre les vaccins, contre le pass sanitaire, contre tout. Il parle hyper fort, il monopolise la parole, il écoute jamais les autres parler, encore moins les femmes. Il me calculait pas en fait en soirée. Il me calculait pas. Et si je l'embrassais ou j'avais un geste d'affection pour lui, il était en mode meuf, m'embrasse pas trop parce que ça va couper la conversation avec mes potes. Enfin, tu vois, ça va plomber l'ambiance. Les gens vont avoir l'impression de tenir la chandelle. Et j'étais en mode mais pourquoi tu m'as invité? Enfin. Du coup, je devais pas le coller et en même temps, je pensais qu'à lui, donc je regardais toujours où il était. Puis le mec disparaissait des fois. Ah, mais il faut que je vous raconte le premier soir. Putain, mais cet épisode ne va jamais se terminer. Allez, c'est bientôt fini. Le premier soir, donc j'arrive, là, il me fait des bisous, on arrive chez lui, je deviens un pot de fleurs. Et on va au bar. Donc il passait toutes ses journées dans un bar et toutes ses nuits dans un bar. Heureusement qu'il fermait à 2h du mat. Et là, on apprend qu'il y a un mec... un voisin qui a pénétré dans leur maison de location et qu'il a été surpris par une meuf et un mec de notre groupe, tu vois, et que bah, le voisin, donc il a pénétré dans la maison, il s'est caché sous un lit et il a attendu qu'on revienne, que les personnes reviennent dans la maison pour les surprendre. Enfin, c'était un truc de fou. Donc ça a énervé Yanis qui voulait aller voir le mec complètement bourré à 2h du mat pour l'engueuler. Donc on pouvait se supposer qu'ils allaient se battre. Et donc tout le monde était en train de calmer Yanis, y compris moi, ce que je déteste faire, genre, tu vois, la pacificatrice de mon mec, alors que je suis là depuis 2 heures. Donc c'était horrible, il était super méchant, il m'a dit « Non mais meuf, reste ici au bar, on s'en occupe entre hommes, laisse-moi tranquille. » Tu vois, il m'attège. Puis finalement, on a réussi à le calmer. Puis après, on est allé à la maison avec un de ses meilleurs potes, son coloc, quoi. Et on est allé à la maison et on était tous les trois, et genre, Yanis a mis une demi-heure à s'aligner un rail de coke, et moi, j'étais 2h du mat, et je lui disais, Yanis, je veux qu'on aille se coucher, parce qu'en fait, nous, on dormait dans un appartement à côté, il fallait qu'il m'emmène à l'appartement, et il me disait, oui, on va y aller, et il a mis une demi-heure à s'aligner son rail de coke, et j'en pouvais plus, tu vois, je disais, mais qu'est-ce que tu fais? Il faut pas une demi-heure pour aligner un rail de coke, et je suis fatiguée, et ça faisait une heure qu'il me baladait comme ça, et au bout d'un moment, c'est son coloc qui lui a dit, mais mec, t'abuses, vas-y, rentre avec Marie. Enfin, en fait, il ne voulait pas partir. Et bon, après, les soirs suivants, il n'est jamais revenu avec moi. Hein. Il s'est toujours couché 3 fois plus tard. Mais tu vois, c'était vraiment symbolique. Et donc, tout ça pour dire que le mardi soir, finalement, j'ai discuté avec ses potes, et même ses potes m'ont dit que son pote me dit, ah mais tu sais, Yanis c'est vraiment un bâtard, genre, il fait ça à tout le monde des faux plans, tu vois, on peut pas compter sur lui. Il s'occupe pas des gens, tu vois, là, il s'occupe pas de toi. Et moi, je me dis, ah mais même, si même son pote le dit, c'est que je ne suis pas seule dans ma tête, il y a vraiment un problème. Et en fait, bah, je lui ai dit, parce que j'ai refait une crise ce soir-là, et je lui ai dit, mais mec, je peux pas, en fait. Parce qu'en plus, tous les soirs, il allait au bar jusqu'à 2h du mat, le bar ferme, et là, il ramenait tous les gens dans la maison où on était. Et moi, je dormais depuis minuit, donc il me réveille tous à 2h du mat, et il ramène des gens, et il veut rester avec les gens jusqu'à ce que les gens partent ou dorment ici. Mais c'était même pas ses potes. Un jour, il a ramené des gens qu'il avait rencontrés au bar, c'était tous des profs d'histoire, et il me dit, voici les profs d'histoire. Et le mec, il est resté avec les profs d'histoire jusqu'à 4h du mat, mais en fait, il les connaissait même pas. En fait, il préférait être avec ces gens-là qu'il connaît pas jusqu'à 4h du mat qu'être avec moi. Tu vois, c'est un truc de fou. Et donc, voilà, le mardi soir, j'ai pété un câble. Je lui ai dit, mec, je me barre, j'en ai marre. Enfin, c'est pas possible. Tu me calcules pas, quoi. Et il m'a retenu parce que, voilà, il a toujours cette emprise sur moi. Et lui aussi, il est dépendant affectif de moi, je pense, tu vois. Et j'ai réussi à partir que le mercredi à 15h. J'ai mis 1000 ans à partir. Chaque fois, il me retournait le cerveau, il me faisait des massages et tout. Et à la fin, il me fait un massage de ouf. Et je dis, bon, mec, ok, je reste. Et il me dit, oui, on va faire des trucs ensemble. Il m'avait dit, déjà, on devait aller au resto tous les deux, on n'y est jamais été. Et après, il me dit, oui, je vais t'emmener faire du paddle. On va faire du paddle tous les deux. Et genre, je vais sur les chiottes. Et il me dit, ouais, par contre, il faut juste qu'on aille au bar, là, au pub où il passe toutes ses journées, pour voir mes potes, parce que ça fait 2 heures qu'ils m'attendent, tu comprends, il faut qu'on aille les voir un peu et tout. Et moi, je dis, Yanis, ok, on va au bar, mais on n'y va pas longtemps, on va faire du paddle. Et là, il me regarde et me dit, oh, ça va, on dirait que ça te fait chier que je vois mes potes. Et là, j'ai fait, ok, laisse tomber. Écoute, je vais partir, de toute façon, ça marchera pas. Et j'ai pas envie d'être cette meuf, tu sais, qui empêche son mec de voir ses potes. Enfin, en fait, j'ai pas envie d'être cette personne, c'est juste qu'il me traitait tellement mal que j'en étais réduite à lui dire que je voulais qu'on passe peu de temps au bar. Parce que sinon, il allait y passer 2 heures, je savais très bien, on n'allait jamais faire de paddle. Et du coup, je suis partie. Mais je suis partie en mode câlin, bisous, je t'aime. Et je lui dis, mec, tu ne m'écris pas, tu ne rentres plus jamais en contact avec moi, tu ne m'appelles pas. Et le mec me dit, oui, promis. Voilà. Donc j'ai réussi à rompre, ne pas me laisser miette de pain. Règle numéro 3, breadcrumb, moto larguée. Et bah, règle complètement respectée, puisque j'ai réussi. Et donc j'ai largué Yanis et je suis partie de 5A et je repris ma route et je me suis dit, waouh, je récupère mon cerveau, c'est incroyable. Et surtout ce que je me suis dit, et qu'à la conclusion de cet épisode qui dure 1000 ans, c'est le dernier mexis de ma life, c'est fini, je ne suis plus hétéro, je n'ai jamais été, mais c'est terminé, plus jamais. Je ne couche, je ne touche, je ne relationne avec un mec cis, c'est terminé. Et c'est dommage que ce soit terminé comme ça, mais je le savais dès le moment où je l'ai rencontré, je me suis dit que c'était le dernier. Parce que j'ai trop souffert, j'en ai marre. Et malheureusement, ça s'est pas fini comme ça. Tu verras dans l'épisode suivant qui s'appelle Je survie au harcèlement, qu'est-ce qui s'est passé avec Yanis après, parce que ce n'est pas terminé. Mais voilà, ce que je voulais dire pour finir l'épisode, et qui n'était pas du tout la conclusion de l'épisode dans sa version numéro 1, c'est que c'est terminé les mexis. Mais c'est terminé, mais ne m'envoyez même pas de messages. C'est terminé. Et je dis pas que évidemment, je peux être dépendante affective de quelqu'un d'autre. Mais vraiment, être dépendante affective de mecs qui n'en ont rien à foutre de ma santé mentale, c'est pas possible. Et le rapport avec le célibat, pour sologamie, c'est que je suis célibataire, que j'ai eu très peur de ne plus l'être pendant 3 semaines, et que Dieu merci, je suis restée dans le droit chemin. Et que de toute façon, sologamie est un podcast dédié au célibat, mais j'imagine bien que je ne serai pas célibataire toute ma life, et pourtant, je serai sologame toute ma life. C'est un état d'esprit plus qu'une situation réelle. Donc je vais inviter aussi dans la saison prochaine de Sologamy, des personnes qui ne sont pas forcément célibataires, mais pour parler de ce sujet en rapport avec le célibat, en fait. Puis de toute façon, on a tous été célibataires au moins à un moment dans notre vie, ne serait-ce que quand on était enfant. Mais voilà, la dépendance affective, c'est un énorme chantier. Je n'ai pas du tout résolu le problème dans cet épisode. Je ne t'ai pas donné des pistes qui vont tout révolutionner. On ne peut pas se soigner, parce que de toute façon, c'est un problème sociétal, politique. Nous ne sommes pas responsables de cette horreur. Et je finirai en disant que Yanis aussi est dépendant affectif, malheureusement pour lui. Mais lui, par contre, c'est assez muet en harcèlement caractérisé et je viens de porter plainte. Mais voilà, tu écouteras ça dans l'épisode suivant qui s'appelle donc de Marie sans filtre, qui s'appelle Survivor Tour de Point, je survie au harcèlement, qui est publié le même jour que cet épisode sur la dépendance affective. Et voilà, je suis triste, je suis en colère. Mais je suis en paix parce que j'ai récupéré mon cerveau, que je suis plus dépendante affective. Que si un jour je le suis à nouveau, au moins ce sera pas d'un mec cis qu'on a rien à foutre de ma santé mentale. Voilà, bon courage. Peut-être que ça parlera aux personnes qui écoutent cet épisode, ce sujet. Voilà, je sais pas comment finir. Si tu veux soutenir le podcast, mes podcasts, le Survivor Tour, donc ce Tour de France à pied contre les violences sexistes, tu peux contribuer à ma cagnotte Tipeee dont je mets le lien dans la description de cet épisode. Et tu peux partager cet épisode avec les personnes à qui tu penses que ça ferait du bien ou du mal de l'écouter. Et tu peux m'écrire pour me dire ce que t'en as pensé. Mon pseudo, c'est toujours MarieAlbertFR sur tous mes réseaux sociaux. Et je te souhaite bien du courage, une belle fin d'été. Et viens marcher avec moi sur le Survivor Tour. Parce qu'avec Pauline, c'était trop cool. Voilà pour Marie sans filtre. Je disais donc, écoute l'épisode suivant qui s'appelle Je survie au harcèlement. Et puis pour Sologamy, on se retrouve en novembre pour la saison 2. Ça va être incroyable. Et vive le célibat, vive les révolutions féministes et que meure le patriarcat. Just like the water, falling from the sky.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.